Les nuits de France Culture.
Le temps des amours est le quatrième et dernier tome de la série des souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol. Roman autobiographique inachevé, Le temps des amours ne fut publié qu'en 1977, 3 ans après la mort de Pagnol, qui avait cependant déjà autorisé la publication dans des magazines de bon nombre des textes qui composent ce livre. La tragédie de l'agneau, l'agneau en un seul mot, est le 3e et long chapitre du temps des amours. Nous allons l'entendre lu par François Perrier en 1971 dans l'émission Bonne nouvelle, grand comédien de Patrice Galbeau. On y retrouvera le petit Marcel et son ami l'agneau, élève en classe de 5e du lycée Thiers de Marseille.
La tante, très maigre et très grande, attendait sous un chapeau pareil à ceux des dames de l'armée du salut. Et elle avait des yeux immenses, bleus comme la mer. Nous nous avançâmes. « Voilà, dit l'agneau, c'est Marcel. » Sans même me regarder, la mère demanda d'une voix étouffée. « Tu l'as ?» L'agneau lui tendit le bulletin. À cette vue, la tante poussa un cri étranglé. « Mon Dieu !» Et elle appliqua la paume de sa main sur sa joue comme pour soutenir sa tête. La mère déplia le papier et s'élança vers le réverbère. La tante la suivit, tenant le parapluie ouvert. La pauvre femme essaya de lire les petites lignes noires qui allaient avoir tant d'importance pour la paix de son ménage à travers la poussière de pluie que la lumière faisait briller. Je voyais trembler sa main qui était grasse, blanche, avec une bague à chaque doigt. Elle ne pouvait pas lire et la tante prit le bulletin. D'une voix brisée, elle dit « A lancé une bille, une balle ?»« Une boule puante, dit l'agneau. » Elle répéta 2 fois cette phrase, avec des intonations différentes, comme si elle espérait en changer le sens. Puis elle dit avec force, « Et d'abord, pourquoi est-il permis de vendre des boules puantes à des enfants? Est-ce qu'on leur vend des revolvers? Elle est jolie, la République. C'est le gérant du bazar Cibier qui devrait venir faire cette consigne. C'est lui qui l'a lancé, cette boule puante. Il l'a lancée dans la classe d'histoire quand il l'a mise dans la main de ce pauvre petit. « Calme-toi, Anna, dit la mère, ne parle pas si fort. » Elle se tourna vers son fils. « Tu es sûr qu'il a prévenu ton père ? » ?»« Il m'a dit qu'il lui enverrait un double à son bureau. » »« À son bureau, répéta la tante indignée. À son bureau ! Quelle méfiance ! Il me sembla que cette méfiance abominable était en somme justifiée, mais que les femmes, et surtout les tantes, ne raisonnaient pas comme nous. La mère se raidissait, mais je vis qu'elle avait des larmes dans les yeux. Elle murmura « S'ils l'ont envoyé ce matin, elle a dû arriver au courrier de 6 heures, et nous allons le trouver à la maison. » « Écoute, dit l'agneau, il faut dire à papa que c'est une punition injuste, parce que c'est pas moi qui ai lancé cette boule. Nous dirons que c'est Marcel. » « Il ne le croira pas, dit la tante. Et s'il le croit, dit la mère, il viendra au lycée demain matin pour protester. Et alors ?» Ils étaient là tous les trois, muets, immobiles, sous la petite pluie désolée. Et soudain, l'agneau, lâchant ses livres, s'élança vers sa mère et se cramponna à sa taille en sanglotant. La tante fondit en larmes sous le parapluie tremblant. Je fus bouleversé par ce spectacle. Tout en ramassant les livres dispersés du malheureux, j'avais bien envie de pleurer moi-même. Alors je pensais au sacrifice de l'agneau qui avait fait pour moi la consigne du pendu et je pris une décision héroïque. Écoutez, madame, moi j'ai une idée. La tante Octante ouvrit ses yeux immenses. Quelle idée, Irène, il a une idée, quelle idée! Si vous voulez, moi je vais lui dire à monsieur l'agneau que c'est moi qui ai lancé la boule puante. Et puis, je lui expliquerai que je suis boursier et que s'il va voir le censeur, moi on m'enlèvera ma bourse, et que mon père est instituteur, et que peut-être il en mourrait. « Vous feriez ça ? » dit la mère angoissée. « je devins héroïque. Oui, je le ferai tout de suite. La tante me regarda de ses yeux de folle. Elle poussa une sorte de gémissement et elle dit « C'est Dieu qui envoie cet enfant ». Nous descendîmes à grands pas la Canebière, car l'agneau habitait la rue de Paradis, celle de la riche bourgeoisie. Et tout en marchant, les deux femmes me faisaient la leçon et mettaient au point le scénario de la tragicomédie. L'agneau me tenait le bras et tout en niflant, il murmurait « Ça va marcher, ça va marcher ». Je commençais à être inquiet. L'héroïsme, c'est comme le soufflé au fromage. Ça ne supporte pas très bien l'attente. Je dis soudain « J'espère qu'il ne va pas me frapper ». « Certainement pas, dit la mère, il est sévère, mais il n'est pas fou. Et puis, dit la tante, nous serons là toutes les deux. » « Il va peut-être écrire à mon père. » « Je ne crois pas, dit la mère. En tout cas, s'il le fait, moi j'irai le voir, votre père, pour lui dire toute la vérité, et je suis sûr qu'il sera fier de vous. » La tante mit sa main sur mon épaule comme pour s'assurer de ma personne, tandis que l'agneau tenait toujours mon bras, et tous deux me poussaient en avant vers le sacrifice. C'était vraiment une belle maison. L'escalier était éclairé à l'électricité. Il y avait un tapis rouge sur les marches et le premier poteau de la rampe était remplacé par une femme en marbre qui avait une robe en bronze. C'était superbe. Nous montâmes lentement au premier étage sans faire de bruit. Les deux femmes s'arrêtaient toutes les trois marches pour écouter. Était-il déjà rentré? Allions-nous le trouver dans le vestibule, énorme, et la canne à la main? Non, il n'était pas rentré. La mère de l'agneau me conduisit dans un salon si beau qu'on aurait dit un petit musée. Et elle me fit asseoir dans un magnifique fauteuil noir, en bois de piano, mais tout tortillonné en spirale. Puis elle me dit « Restez ici, il ne faut pas qu'il vous voie tout de suite. Quand il arrivera, nous le préparerons et je viendrai vous chercher au moment voulu. N'ayez pas peur, ça va se passer très bien. » Elle allait sortir, mais elle se ravisa et prit sur un meuble une grande boîte de carton toute pleine de glands en chocolat et un petit panier rond surmonté d'une ganse de ruban et garni de fruits confits de toutes les couleurs. « Tapez là-dedans, me dit-elle, et n'ayez pas d'inquiétude. » C'était bien facile à dire et je pensais tout à coup que cette tendre mère avait sans doute plus de sollicitude pour les fesses de son fils que pour les miennes et que j'allais peut-être payer pour lui. Mais quoi, j'avais une dette de reconnaissance envers l'agneau, et puis quand le vin est tiré, il faut le boire. Je pris deux chocolats à la fois, car je craignais de n'avoir pas beaucoup de temps pour profiter de l'aubaine. Je n'entendais aucun bruit. Tout en mastiquant les chocolats, j'admirais le somptueux décor, et je me levais pour admirer de plus près tant de merveilles. Sur la cheminée, entre deux grands bougeoirs de verre à plusieurs branches, se dressait une pendule dorée. Au-dessus du cadran, il y avait une petite statue, qui représentait une jeune femme toute nue. Elle courait si vite qu'un seul de ses pieds touchait le sol et encore tout juste du bout de l'orteil. L'autre pied traînait en l'air bien loin derrière elle. Tout en courant, elle tirait avec un arc et autour d'elle, c'était plein de chiens bondissants. Je m'approchais pour toucher du doigt sa poitrine qui était superbe. Mais je constatais que dans ce tableau magnifique, il manquait le principal. L'arc n'avait pas de corde. Il me sembla que c'était bien dommage et je décidai de conseiller à l'agneau d'y mettre un élastique double doré avec de la poudre d'or. Comme je n'entendais toujours rien, je pris en hâte un chocolat fourré. Sur une espèce de table dorée, elle aussi, j'admirais de petits éléphants en porcelaine, des statues de soldats en couleur, des poupées japonaises avec de vrais cheveux, un petit âne avec de vrais poils qui balançait la tête quand on le touchait. C'était beau. Il y avait autant d'objets d'art que dans la vitrine d'un bazar. Après avoir choisi une petite orange confite, j'admirais le lustre pendu au plafond. Il y avait au moins 10 lampes électriques plantées au fond de tulipes en perles. Au beau milieu, en dessous, un ange en verre blanc planait sur des ailes vertes en jouant d'une trompette en or. Je pensais que ça devait être féerique quand toutes les lampes étaient allumées pour recevoir des invités. Confondu par la vue de tant de richesses, j'admirais le caractère de mon ami. En découvrant ce luxe, je découvrais sa modestie, car il ne m'avait jamais parlé de sa fortune et il était aussi gentil qu'un pauvre. Je n'hésitais donc pas à prendre un abricot confit ou verni de sucre et je commençais la dégustation lorsque j'entendis claquer une porte, puis une voix épaisse et sourde gronda, puis une voix de femme qui parlait très vite, puis ces deux voix à la fois, puis une autre porte. Puis je n'entendis plus qu'un murmure et je retrouvais dans ma bouche le goût de l'abricot. Je pensais, elles sont en train de le préparer. J'espérais que cette préparation serait assez longue pour me permettre de mener à bonne fin cet abricot dont la dernière moitié s'était collée à mon palais. La tante ouvrit soudain la porte. Elle souriait, mais je vis bien qu'elle le faisait exprès pour me rassurer. D'un signe de tête, elle m'appela. Je la suivis. L'agneau n'avait pas exagéré, son père était aussi grand et aussi large qu'une armoire. Ses cheveux grisonnants, coupés courts, se dressaient tout raides sur sa tête, et ses yeux noirs, petits et perçants, s'abritaient sous des sourcils énormes, d'où sortaient des pattes d'araignée. Debout, près de son bureau, il tenait à la main le bulletin. Dès que je parus, il parla d'une voix rugueuse, une voix de général enroué. « Alors c'est vous, monsieur, qui lancez des boules puantes dans les classes du lycée ?» Je baissai la tête humblement et je ne répondis rien. « Et de plus, vous laissez punir un camarade à votre place. » Je gardais une attitude accablée et je regardais le tapis. Il était bordé d'arabesques vertes sur un fond rouge. Alors sa voix devint encore plus forte. « Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez fait ?» Les bras croisés, il attendait une réponse, mais l'abricot paralysait ma langue, alors il répéta « Est-ce que vous vous rendez compte ?» La tante répondit pour moi « Mais oui, Édouard, il se rend compte. »« Mais non, dit-il avec force, il ne réalise pas. Il faut que je lui mette les points sur les i. » Il montra du doigt son fils, qui ne manifestait aucune gêne, mais montrait le pâle et douloureux sourire d'un martyr. « Voilà un garçon, dit-il, qui depuis le commencement de cette année, depuis le mois d'octobre, a fait des efforts considérables pour s'améliorer. Il a plus que la moyenne en conduite dans ses bulletins trimestriels. Il n'a pas eu une retenue depuis 8 mois. Et voilà que grâce à vous, il attrape une consigne. Tous ses efforts sont anéantis. Il va falloir qu'il reparte à zéro. Oui, à zéro !» L'agneau dit froidement, « Ça, je m'en charge. » « Vous voyez, Édouard, dit ma tante, il s'en charge. « Parce qu'il ne se rend pas compte, lui non plus, de la gravité de la chose. Je suis sûr que ses professeurs vont croire qu'il est redevenu comme l'année dernière et ils vont le surveiller spécialement. Et quand on a dans l'idée qu'un élève est capable de lancer des boules puantes, c'est toujours sur lui que ça retombe. Maintenant, il faudra qu'il fasse attention à ses moindres gestes et à la prochaine sottise de n'importe qui, c'est lui qui sera consigné. Voilà ce que vous avez fait. »«
Édouard, dit la mère, je crois que tu exagères un peu. » D'autant plus, dit la tante, que les autres professeurs ne savent même pas qu'il a été puni, n'est-ce pas, Jacques ? Jacques leva la tête et dit d'une voix douce, « Il n'y a que Monsieur Michel qui le sait, et puis peut-être Monsieur le censeur, mais il en voit tellement que la semaine prochaine, il n'y pensera plus. » Le gros homme réfléchit quelques secondes et me dit brusquement, « À votre âge, on peut faire une bêtise, mais au moins on en prend la responsabilité. Moi, monsieur, à votre place, je me serais dénoncé. »
« Il ne pouvait pas, dit la mère, je te l'ai dit, il est boursier, son père est instituteur. Ça n'est pas bien riche, un instituteur. Si ce petit perdait sa bourse, il ne pourrait plus continuer ses études. Il fallait y penser avant. Et puis quand on est boursier, on se tient tranquille. N'oublions pas que c'est avec mes impôts que le gouvernement paie cette bourse. Et voilà un monsieur qui empeste une classe, et par-dessus le marché, il fait condamner mon fils. C'est une bizarre mentalité. Si c'est ça la jeunesse moderne, ça nous fera de drôles de soldats. « Ça n'est pas un coup de boule puante que nous reprendrons l'Alsace et la Lorraine !»
Cette idée absurde me parut comique et je ne pus retenir un sourire.
« Et il rit !» s'écria le camionneur. « On lui parle des provinces perdues et ça le fait rire. Ça, c'est le bouquet !»
La mère intervint timidement. « Écoute, Édouard, n'oublie pas qu'il a eu le courage de venir te dire la vérité. »«
C'est toi qui l'as forcé à venir !»«
Pas du tout, dit la tante. C'est lui qui nous l'a proposé. » Le père fit quelques pas, puis revint vers son bureau et s'adressa à son fils.
« Alors toi, sur le moment, tu n'as rien dit. »
« J'ai dit, c'est pas moi, mais ils m'ont pas cru. »
« Ça s'est passé quand ?»«
Lundi matin. »
« Et depuis lundi matin, tu n'as pas eu l'idée de le dénoncer. »
Le visage de l'agneau exprima aussitôt une surprise indignée. « Moi, dit-il, dénoncer un ami ? Ah non, c'est une chose qui ne se fait pas.
Pourtant, tu savais que t'allais recevoir une correction. »
« Oui, je le savais, mais je comptais te dire la vérité, et j'espérais que tu me croirais. Tu te trompais. S'il n'était pas venu, je ne t'aurais pas cru. » « Tu vois, Édouard, s'écria la mère, comme tu es parfois injuste. » « C'est vrai, dit la tante pathétique. Vous ne faites jamais confiance à cet enfant. » Le père réfléchit encore un instant, puis il déclara,
« Finalement, tout n'est pas vilain dans cette affaire. »
Il se tourna vers moi.
« Vous n'avez pas le beau rôle, certes, non. » Vous êtes venu ici,
C'est vrai. Mais avant de lancer cette boule puante, vous auriez pu penser à monsieur votre père. C'est un honnête homme, monsieur votre père. Qu'est-ce qu'il dirait s'il apprenait votre conduite ?
L'apparition de mon cher Joseph dans cet imbroglio de mensonges et d'hypocrisie me gêna horriblement. Il insista.
« Oui, qu'est-ce qu'il dirait ? Qu'est-ce qu'il dirait, monsieur votre père ?»
J'avais envie de lui répondre. « Il dirait que vous êtes une andouille. » Mais vraiment, je n'en eus pas le courage et je secouais la tête tristement 3 ou 4 fois, tout en essayant avec le bout de ma langue de décoller cette moitié d'abricot qui adhérait toujours à mon palais. Il y eut un assez long silence. Le gros camionneur marchait à pas lents de la porte à la fenêtre et il paraissait plongé dans de profondes réflexions. Les femmes attendaient, muettes, mais déjà rassurées. L'agneau, dans un fauteuil, les bras croisés, regardait le tapis. Mais chaque fois que son père nous tournait le dos, il me faisait un clin d'œil et lui tirait la langue. Enfin, le penseur arrêta sa promenade et dit « Soit !» Puisqu'il est venu se confesser ici, je n'en dirai rien à personne, ni à son père, ni au lycée.
Bravo, dit la tante, bravo, Édouard, vous êtes un homme généreux et un noble cœur. Mais attention à la prochaine fois, ajouta-t-il en levant vers moi un index menaçant. Il n'y aura pas de prochaine fois, s'écria la mère qui pleurait de joie. N'est-ce pas, Jacques ?
Jacques fut infâme, car il ouvrit de grands yeux innocents et s'écria, pourquoi me dis-tu ça, moi ? Moi, j'y suis pour rien.
Il a raison, dit le père, la seule chose qu'il ait faite, c'est de se laisser punir pour ne pas dénoncer un ami. Je le note. Je le note et ce n'est pas à son déshonneur. »
Tout en parlant, il s'était approché de son fils et il posa sa grosse main sur la tête frisée de cette petite canaille qui prit un air modeste et confus.
Il a accepté la faute d'un autre parce qu'il n'a pas voulu qu'on dise « Le petit Lagneau, le fils du camionneur, a dénoncé un camarade. » J'en tiendrai compte. J'en tiens compte.
Il en tenait compte, en effet, car il me semble tout d'un coup qu'il avait encore grandi. Je vis s'épanouir sur cet épais visage un sourire magnifique et deux lumières mouillaient ses gros yeux. Les résultats de cette aventure furent prodigieux. Tout d'abord, l'agneau, 2 jours plus tard, trouva à son réveil au pied de son lit une étincelante bicyclette à changement de vitesse avec une selle rembourrée et des pédales à patins de caoutchouc. Le terrible camionneur s'était levé la nuit pour simuler à la Pentecôte un revenez-y du Père Noël. Cette récompense imméritée qui aggravait ses responsabilités le terrorisa. Mon ami se mit au travail avec une énergie surprenante, c'est-à-dire qu'en nourrissant Bigot de caramel mou, il lui fit faire ses versions latines. Il copia très exactement mes problèmes et il consacra les jeudis à composer ses rédactions françaises avec la collaboration de sa tante. De plus, il recopiait la leçon de latin en grosses lettres sur une feuille détachée d'un carnet et il engageait le haut de la feuille sous le col du veston de Rémusat qui était assis devant nous. Il nous présentait ainsi, comme une sorte d'homme sandwich, mais seulement visible à partir du second gradin, la fable de Phèdre ou les règles sur l'emploi du superlatif étalées entre ses frêles omoplates. Toutes ces tricheries eurent une grande influence sur sa destinée, car il obtint d'abord par la fraude d'excellentes notes qui le remplirent d'orgueil et de confiance en soi. D'autre part, à force de penser au trucage de ses études, il finit par s'y intéresser pour tout bon et s'aperçut qu'il était plus facile d'apprendre ses leçons que d'organiser ses impostures compliquées. Enfin, dès que les professeurs commencèrent à le traiter en bon élève, il le devint véritablement. Pour que les gens méritent notre confiance, il faut commencer par la leur donner. Il n'obtint pas le prix d'excellence, mais le 3e accessit en latin et le 4e en français, si bien qu'au dernier trimestre, la tante éperdue de joie, mais prisonnière de son passé, dut faire encore une fois un bulletin frauduleux à cause du changement d'écriture qui aurait pu intriguer le camionneur, mais elle n'y changea pas une seule note, ni une seule observation. Ainsi, la belle bicyclette ne fut plus une escroquerie, mais une récompense prématurée. Quant à moi, mon dévouement à l'amitié me valut de grands avantages. Tout d'abord, la mère et la tante me vouèrent une reconnaissance éternelle et je fus invité tous les jeudis aux excursions devenues réelles car l'agneau n'avait plus de retenue. Ces randonnées nous conduisaient à la Treille, à la Bouilladis ou sur les collines d'Aloche. Mais à midi, au lieu de pain et de saucisson, la tante, qui était riche, nous offrait un vrai déjeuner dans un restaurant de village où il y avait même des hors-d'œuvre. Lorsque je racontais à Paul que dans les restaurants, pour commencer, on nous servait 10 de petits plats avec de tout et qu'on pouvait en prendre tant qu'on en voulait, sa voracité naturelle en fut grandement émue et il alla demander à mon père si une telle prodigalité était possible. Vers 4 heures, nous rentrions chez l'agneau.
Sa mère avait préparé le goûter, c'est-à-dire des babas au rhum, des meringues, des choux à la crème et de fausses figues en pâte d'amande revêtues d'une épaisse peau verte. Elle cédait mollement sous la dent pour éclater en délices sur la langue. Parfois, vers 6 heures, Monsieur Lagneau arrivait. Il venait jeter un coup d'œil sur nos jeux. La première fois, je fus surpris et un peu inquiet en entendant son pas dans le vestibule. Il ouvrit la porte du salon où nous faisions une partie de dames à plat ventre sur le tapis et me dit « Ah ! Te voilà, bandit !» Et il me serra la main comme un homme. Puis il demanda à sa femme « Tu les as fait goûter au moins ?» Sans attendre la réponse, car il avait vu les assiettes par terre, il fit semblant de flairer l'air à la ronde et dit « Allons, aujourd'hui le spécialiste n'a pas lancé de boule puante. Ça sentirait plutôt la crème à la vanille. » Et son rire sonna si fort que l'ange de verre se balança gracieusement au tintement des cristaux du lustre. Au lycée, et quoique nous eussions juré le secret, Lagneau ne put résister au plaisir de raconter toute l'affaire à Berlaudier. Il amplifia, bien entendu, la colère paternelle et ne me fit intervenir qu'au moment où la canne allait retomber sur son derrière dénudé. Je m'étais alors jeté à genoux en sanglotant et mes aveux héroïques avaient arrêté le bras du bourreau. Berlaudier commença par l'injurier en lui reprochant sa lâcheté, puis il vint honorer mon courage et déclara, en me serrant les deux mains, que j'étais un homme et un ami. Cet éloge public intrigua Zacharias, qui parvint à extraire de Berlaudier tous les détails de l'histoire. Alors le fils d'Homère, à la récréation de 4 heures, chanta cette épopée au milieu d'un cercle attentif, et ses auditeurs me portèrent en triomphe à travers la cour. On célébra mon héroïsme, on admira notre amitié, mais c'est l'ingéniosité de mon invention qui me valut l'estime et la reconnaissance de toutes les 5e et même de la cour des moyens. Depuis l'ouverture du premier lycée, une consigne avait toujours été génératrice de gifles, coups de pied au derrière, promesses furieuses d'une mise au travail immédiate en usine et de menaçantes lamentations paternelles qui duraient souvent plusieurs jours. J'avais transformé ces avanies en bicyclettes, orgie de gâteaux, félicitations renouvelées dans une atmosphère de fierté familiale, et le scénario que j'avais établi était à la portée de tout le monde. On ne se fit pas faute d'en user. C'est ainsi que Berlaudier alla un soir se confesser chez Duvernay et prendre la responsabilité entière d'un pic-cul posé sur la chaise de Pétunia. Il en fut bien récompensé, car 3 semaines plus tard, Duvernay, tout chaud de reconnaissance, alla se jeter aux pieds du papa Berlaudier et s'accusa humblement d'avoir poussé ses longs mugissements dans les couloirs pour lesquels le fils était injustement puni. Ainsi, le faux coupable s'offrait sans dommage aux reproches parfois cruels mais indolores d'un père qui n'était pas le sien, tandis que le faux innocent partait subir la punition imméritée aux applaudissements de toute sa famille, ému et fier de voir accepter dignement la faute d'un autre et sacrifier tout un jeudi sur les autels du respect de soi-même, de l'honneur scolaire et de l'amitié. La seule critique qui me fut adressée vint de Nelps, notre criminologiste, qui me parut discrètement jaloux. « C'est un truc excellent, dit-il, malheureusement, ça ne peut servir qu'une fois. » « Une fois dans une famille !» s'écria Berlaudier. « Mais ça pourra servir dans 1000 familles. C'est quand même formidable d'avoir pensé à ça. Et moi, je trouve qu'il devrait écrire des romans. »
Vous venez d'entendre François Perrier lire « La tragédie de l'agneau », un texte de Marcel Pagnol dans « Bonne nouvelle, grand comédien » en 1971.